Les invités de Radio Présence ce matin donnent des suggestions de livres à offrir pour Noël.
Noël arrive à grands pas. Quel livre offrir à ses enfants ou ses petits-enfants? Comment faire plaisir à son gendre ou à sa belle-mère en choisissant un bon roman ou un livre spirituel? Nous sommes en ligne avec Domitie Delatouche, libraire à La Procure à Montauban. Bonjour madame.
Bonjour madame, merci de me recevoir.
Avec joie. Et à mes côtés, en studio, Guillaume Cyr, auteur toulousain de Les Grandes Patries Étranges chez Calman Lévy. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Domitie Delatouche, nous commençons avec vous et vous êtes donc en direct de Montauban. Vous avez sélectionné deux livres pour enfants. Quels sont-ils?
Alors, le premier, c'est un petit livre cartonné pour enfants de 1 an et plus. Ma première histoire de Noël avec les plus beaux chants chrétiens. En fait, c'est un livre sonore. Donc, vous avez une dizaine de pages et sur chaque double page, vous avez un chant différent. Donc, on va retrouver les chants comme « Venez divin Messie »,« Il est né le divin enfant », »,« Gloria in excelsis Deo ». Et en fait, ça explique de façon très succincte ce qu'est Noël, un tout petit. Ça part de l'Annonciation jusqu'à l'Épiphanie. Voilà. Et en fait, dans cette même collection, on retrouve aussi la première histoire de Jésus et ma première histoire de Marie.
Ah oui.
Donc, c'est des livres qui ont beaucoup de succès et surtout auprès des tout petits.
Mmh. Donc, vous dites qu'il y a des chants. Et quelle est l'iconographie?
Alors, c'est des dessins très naïfs. C'est illustré par Sophie Kennens. Et avec des bouilles bien rondes, des yeux bien ronds, voilà, des jolies couleurs vives, voilà, c'est vraiment adapté aux tout petits.
Aux tout petits, donc à peu près jusqu'à 4-5 ans à peu près.
Quand même pas, peut-être un 1-3 ans, on va dire.
À 3 ans, oui. D'accord. Voilà. Un deuxième ouvrage que vous conseillez, Domitie Delatouche?
Alors ici, on est sur un bel album illustré par Thomas Tessier et écrit par Aimé Simon aux éditions MAM, « Trois Noëls merveilleux ». En fait, ce sont trois histoires de paix, d'amour et de joie. Dans la première, on retrouve Saint François d'Assise et l'épisode de la crèche.
Ah oui.
En fait, après son pèlerinage à Jérusalem, il cherchait un moyen de rassembler les pauvres et les riches et leur annoncer l'amour du Christ. Et donc, il a eu la merveilleuse idée d'aller dire la messe de minuit dans une grotte, entourée d'un âne et d'un bœuf, et d'une mangeoire pour recevoir un petit bébé. Et donc, le miracle de Noël est arrivé à Greccio, exactement. Voilà, la deuxième histoire...
C'est la première histoire de Noël.
Oui, tout à fait, oui, oui. La deuxième, ça se passe en Autriche, en 1818. Et là, on est sur l'origine du cantique « Douce nuit, sainte nuit ». Cette histoire, elle met en scène une petite famille souris qui se réfugie dans l'orgue d'une église pour fuir un chat. Évidemment, ils vont grignoter les soufflets de l'orgue. L'orgue ne va donc plus fonctionner et le curé et l'organiste sont bien embêtés parce que pour la messe de Noël, ils n'auront pas de musique.
Ouais, c'est embêtant ça.
Et le curé répond à l'organiste, mais attends, je suis en train d'écrire un magnifique poème, j'aimerais que la chorale le chante. Et en fait, la famille souris voit ça du haut de l'église. Ils se disent, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Un sapin, une mangeoire, il va peut-être y avoir du jambon, du fromage dedans. Et le soir de Noël arrive et là, ils sont époustouflés. En fait, c'est un petit Jésus qui est dans la mangeoire. Voilà. Et au passage, donc, la famille souris est quand même sauvée.
Ah.
Voilà. Donc, c'est une belle histoire aussi pour les petits.
Mmh. Et une troisième histoire dans cet ouvrage, Trois Noëls merveilleux.
Ouais, ça se passe pendant la Grande Guerre et en fait, c'est tout simplement l'histoire de la trêve de Noël dans les tranchées.
Ah oui, qui a été reprise par le film Joyeux Noël.
Oui, tout à fait. Mmh. Et donc, en fait, on retrouve une petite famille. Le mari est parti dans les tranchées. La maman est enceinte de son troisième enfant et elle va accoucher dans la nuit de Noël. Et voilà, surprise d'avoir la visite de son mari pour accueillir ce petit bébé. Voilà, donc c'est trois belles histoires avec trois beaux miracles de Noël. Et je dirais que c'est pour des enfants qui soient... savent lire quand même correctement parce qu'il y a quand même un peu de texte. Mais en même temps, ça peut très bien être lu par les parents parce que les histoires sont quand même courtes.
Mmh.
Voilà.
Et puis, les illustrations sont de quel style?
Alors, c'est très... c'est des illustrations très fines, très fidèles au petit
texte,
au personnage.
Ouais.
Voilà, au texte. Vous avez... une belle image par page à peu près, soit une page entière avec le texte en face, soit elle est en bandeau sur les deux pages et vous avez le texte en haut.
Oui,
Voilà,
donc ça
c'est
permet de bien s'imprégner aussi de l'image, voilà, pour ceux qui écoutent
complètement.
l'histoire, ouais, racontée
Ouais,
par
c'est
les
un
parents
très bel
ou les
album à
grands-parents.
offrir à ses enfants ou petits-enfants,
Et
effectivement.
voilà, ou filleuls. Domitille de la
Oui.
Touche, vous avez sélectionné pour les auditeurs de Radio Présence un livre spirituel.
Oui, tout à fait. Alors, je vous présente le livre Destin sacré d'Alessandra Martinez et de l'abbé Christian Venard, qui vient de sortir aux éditions Salvator. En fait, Destin sacré vous parle peut-être parce que c'est un livre adapté de l'émission de C8, Destin sacré,
Et
qui
Alessandra
présente des
Martinez,
vies
c'est la
de...
journaliste qui anime cette émission, non?
Exactement, oui, c'est ça. Donc, ça présente des vies de saints, bienheureux, etc. Donc là, dans le livre, on est sur 10 portraits inspirants pour nous et notre époque. Ce sont essentiellement des saints bienheureux ou des personnes qui ont un dossier en étude au Vatican. Et ces personnes, ces portraits nous encouragent à nous tourner vers Dieu et à avancer avec Jésus. Ce sont essentiellement des jeunes. Alors quand je dis jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont morts entre 12 et 28 ans.
Oui.
Donc avec une courte vie vraiment intense. Alors le livre se présente de telle façon, vous avez d'abord la petite vie de la personne, après on va retrouver une ou plusieurs citations. Ensuite on aura une méditation du Père Venard qui se présente sous forme de petits conseils de vie dans le but de se sanctifier. Et enfin une prière. Voilà. Et alors, comme ça, on va retrouver notamment Carlo Acutis, Maria Goretti, ou encore une jeune femme que je ne connaissais pas, Claire-Emerentienne Fichefeu, qui était porteuse de trisomie 21, qui n'est pas encore sainte ni bienheureuse, mais qui a donc son dossier en étude au Vatican. Elle est morte à l'âge de 27 ans sans aucune alerte en pleine nuit. Et moi, j'étais particulièrement touchée par sa vie. Qui en fait un, pour moi un vrai exemple de joie et d'espérance, juste simplement par sa vie, sa simple vie, mais aussi par l'amour inconditionnel qu'elle portait à Jésus et à la Sainte Vierge.
Oui, voilà des bons exemples. Merci pour tous ces conseils, Domitille de la Touche. Je me
Avec
tourne
plaisir.
maintenant vers Guillaume Cyr. Alors, Guillaume Cyr, vous êtes l'auteur des Grandes Patries étranges. C'est votre sixième roman. Une grande partie de l'intrigue se déroule à Toulouse, juste en face de nous, en fait, au bord de la Garonne, dans le quartier de la Dalbad, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est d'abord l'histoire d'un amour unilatéral entre deux jeunes gens, Joseph et Anima.
Alors oui, Les Grandes Patries étranges, c'est l'histoire d'amour de Joseph, un enfant qui vit seul avec sa mère sur l'île de Tunis, donc c'est ça, à quelques mètres de la Dalbad, qui a la particularité d'être un hypersensible, c'est-à-dire qu'en posant ses mains sur quelque chose, sur un mur, il va sentir les failles de la pierre, les nœuds du bois, s'il touche du bois, s'il touche un piano, il va sentir le triple filin d'acier, la laque du piano, en touchant la peau de quelqu'un, il peut savoir s'il est malade, si la personne, si une femme est enceinte, par exemple. Et cet enfant très sensible est très seul aussi avec sa mère qui travaille, tombe.
Et qui vit mal le deuil de son mari aussi.
Oui, qui est mort à la guerre comme beaucoup, et donc cet enfant orphelin de père tombe fou amoureux de sa voisine, Anima, qui est l'inverse de lui, c'est-à-dire qu'elle est presque insensible, elle est dure, elle est caparaçonnée, elle est assez hérisson, elle est presque méchante, mais en fait elle se protège aussi. Et elle joue Schumann, et elle pense que si elle joue Schumann très bien, et qu'elle le joue tellement bien qu'on l'écoutera mieux que Wagner, qu'on le préférera à Wagner, et qu'on préférera la mélancolie, pour le dire simplement, à la fureur symphonique, alors le monde sera sauvé parce que personne ne peut préférer Schumann et devenir nazi.
Eh
Et
oui.
il tombe amoureux d'elle et il décide qu'il la protégera, qu'il l'aimera quoi qu'il arrive. Elle est juive, elle s'en fiche un peu parce qu'elle doit jouer du piano. Et Les Grandes Patries étranges racontent l'histoire d'amour de Joseph et d'Anima tout au long du XXe siècle, de cet homme éponge, très sensible et blessé, qui décide de protéger quelqu'un qui est très protégé et pourtant en danger.
Et pourtant en danger. Alors, c'est vrai qu'à un moment, Joseph et Anima se séparent par les circonstances de la vie, puisque elle part à Paris, notamment pour travailler son piano, et lui reste à Toulouse. Comment arrive-t-il à rester en contact?
Elle s'éloigne, il pense à elle, il la mythifie aussi, elle est son imaginaire, quoi. Elle est la princesse du conte de fées, elle est ce qui l'empêche de se faire avoir par l'âge, d'abandonner totalement son enfance. Donc elle est son délire, et c'est ce délire-là dont il vit, dont il est camé, qui est un délire heureux, parce que justement il avait perdu son père, il était seul, et tout d'un coup tout le deuil, tout le chagrin a été remplacé chez lui par cette folie, et cette folie il la vit presque indépendamment d'elle, qu'elle l'aime ou non. Et le vrai amour, on le sait sur Radio Présence, c'est un amour qu'on donne sans plan comptable, sans condition, sans qu'il soit forcément donné en retour. Je t'aime peu importe que tu m'aimes ou non, et je t'aime tellement que je suis prêt à donner ma vie pour toi, même si c'est toi qui veux me la prendre, ou même si toi ça t'indiffère. Voilà, je t'aime inconditionnellement. Il l'aime comme ça, et comme elle est juive, cet amour-là, dans ce siècle-là,
oui, sera
exemplaire.
Au moment de la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà, on va aller dans cette Deuxième Guerre mondiale. Mmh. C'est ça, et jusqu'au château fort d'Allemagne, de Coblenz, sous la neige, où Joseph décide d'aller sauver Anima, quoi qu'il en coûte.
Oui, alors qu'elle n'a pas lancé d'appel à l'aide, puisque en fait, Joseph est prisonnier. Il s'échappe et il veut absolument aller retrouver cette jeune femme maintenant qui est mariée.
Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que fonctionne l'amour. C'est l'autre ne nous demande pas de l'aide, et pourtant on est sûr qu'il en a besoin, et on lui porte quoi qu'il en pense. Et donc autour de cet amour-là, les autres aussi aiment comme ça. C'est-à-dire que Joseph est très aimé par sa mère, qu'il aime sans plan comptable, qui est très original, qui fait le ménage dans un bordel dans le quartier des Demoiselles à Toulouse. C'est ça son métier. Joseph est très aimé par son ami Vadim, le poète anarchiste. Au milieu de tout ça, vous avez un prêtre communiste aussi qui est assez haut en couleur, qui cache des armes pour les guérilleros de 36. Et donc, que des personnages comme ça, attachants, j'espère, poétiques, je crois,
oui,
et fous d'amour dans un siècle qui pourtant a décidé que ce n'était pas le projet.
Et puisque vous parlez d'amour et vous faites référence à notre radio et à sa dimension chrétienne, vous ne vous cachez pas justement de faire référence à la foi catholique dans votre ouvrage?
Alors, je ne m'en cache pas, pour plusieurs raisons, mais d'abord, la raison principale, c'est que dans les années 1920, à Toulouse et en France, si vous en parlez pas et que vous essayez d'éviter le sujet, comme le font certains, vous ratez la France. Enfin, c'était des années où c'était très présent, la culture religieuse était très présente, et donc on expliquait aussi les choses en fonction de ça, on essayait de trouver un sens aux événements en fonction de ça. Il y avait le grand débat sur l'antisémitisme, puisqu'elle est juive, Anima, et que la mère de Joseph est antisémite, comme beaucoup dans ces années, entre, vous le savez, d'un côté maritain et de l'autre morasse. Donc c'est évidemment, ça a été un moment très important de la chrétienté en France. Et je ne m'en cache pas aussi, parce que je pense que ces valeurs chevaleresques, cet amour inconditionnel, cette façon de croire et d'espérer qu'il y a une issue heureuse à un siècle très sombre, sont très chrétiennes et permettent, pour moi, romancier, dans la narration, de créer un système de valeurs qui ensuite prend dans l'histoire et crée un suspense. On les suit, on croit avec eux, on prie avec eux, on espère avec eux que l'issue sera plus heureuse que ce que tout promet.
Oui, c'est vrai que c'est un roman haletant qu'on ne lâche pas. Sur cette dimension chrétienne, est-ce que vous pensez que ça peut interpeller des gens qui ont laissé la foi de côté et qui peuvent se dire, bah oui, justement, il y a quand même cette foi qui imprègne notre pays, notre culture?
Alors, bon, moi, j'écris pas d'essai. Hein. Je crois que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que c'est dans le sens où c'est pas une lecture qui est obligatoire. Je pense que quelqu'un qui est croyant le voit, parce qu'il y a, oui, il y a des clins d'œil.
Ça transpire quand même.
Voilà, ici et là. Vous savez qu'il y a l'effondrement du clocher de la Dalbade. Ouais. Il y avait un clocher de 83 mètres sur la Dalbade qu'on a un peu oublié, qui était un peu un truc bizarre, néo-gothique, qui était assez. Qui datait de 1870, qui est tombé dans la nuit du 10 au 11 avril 1926. Donc là encore, quel symbole. Vous voyez, en ce moment où on parle de Notre-Dame qui a brûlé et qu'on a restauré, ben chez nous on a un clocher énorme qui s'est effondré sur un couple de boulangers. Bon, je pense qu'on peut vivre tout ça sans la lecture forcément chrétienne aussi. Et surtout, moi, j'écris pas de message, j'écris pas de roman à message, pas de thèse morale. Je dis pas aux gens quoi penser ou quoi croire. J'écris des romans romanesques. On rentre dans l'histoire, on suit des personnages, on se demande ce qui va se passer. Et je préfère muscler les questions. Je crois que les romans sont là pour ça. Plutôt que de quelque façon que ce soit, essayer d'y répondre à la place du lecteur. Je le laisse faire ça, je lui donne ma question aussi musclée que possible.
Alors, donc, c'est votre ouvrage, Les Grandes Patries étranges, chez Calman Lévy. Merci Guillaume Cyr et merci à vous, Dominique Delatouche, pour vos conseils depuis la librairie de la Procure à Montauban.